très bientôt, au revoir.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du 10 septembre 2021. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Une délégation de la CEDEAO dit avoir rencontré le président déchu Alpha Condé, qu'ils disent être en bonne santé, et son tombeur, le colonel Doumbouya. Charles Blé Goudé veut être indemnisé par la CPI après son acquittement le 31 mars dernier. Le gouvernement togolais ordonne la fermeture de tous les lieux de culte pour un mois pour faire face à la flambée des cas de Covid. Les États-Unis s'apprêtent à commémorer le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Le président Biden et son épouse sont attendus samedi à New York. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports dans 10 minutes, mais tout d'abord le journal. Les membres de la délégation de la CEDEAO qui se sont rendus en Guinée ont rencontré l'ex-président Alpha Condé, renversé dimanche lors d'un putsch. Ils affirment l'avoir trouvé en bonne santé. La délégation ouest-africaine a aussi rencontré le nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadou Doumbouya. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
Après une réunion d'un peu plus d'une heure dans un hôtel de la capitale, non loin du QG de la junte, le colonel Doumbouya et ses collaborateurs sont les premiers à sortir de la salle. Ils sont ensuite suivis des membres de la délégation de l'organisation ouest-africaine. Aucune communication sur les discussions qui se sont déroulées à huis clos. La réunion doit se poursuivre, a confié à la presse le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry, l'un des quatre ministres des Affaires étrangères présents à Conakry. La délégation de la CEDEAO, composée du Ghana, du Togo, du Nigeria et du Burkina Faso, s'est ensuite rendue au QG de la junte pour la suite de sa mission. C'est la première mission africaine en Guinée depuis le coup d'État qui a renversé Alpha Condé, dont le sort reste toujours incertain. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Le président nigérien Mohamed Bazoum a assuré vendredi que le rapport de force avait changé en faveur de l'armée face au groupe djihadiste. C'était lors d'une visite dans la région de Tillaberi, dans l'ouest particulièrement touché par des attaques ces derniers mois. Le président Bazoum a déclaré que les djihadistes s'en prennent à des civils innocents et sans armes. Il s'agit de la première visite de M. Bazoum depuis son élection fin février dans la région de Tillaberi, théâtre donc depuis des années d'actions sanglantes de groupes djihadistes. Un hélicoptère Mi-24 de l'armée ivoirienne est porté disparu depuis la nuit dernière dans le nord du pays. L'état-major des armées dit avoir lancé des recherches pour localiser l'appareil. L'hélicoptère en mission de reconnaissance sur la ligne frontalière nord, près du Mali, a perdu tout contact avec la station de contrôle vers 2h GMT, explique un bref communiqué de l'armée. L'armée qui est mobilisée dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui a connu récemment plusieurs attaques de djihadistes présumés, notamment à la frontière avec le Burkina Faso. L'Ivoirien Charles Blé Goudé, acquitté le 31 mars par la justice internationale, a déposé hier une demande d'indemnisation devant la Cour pénale internationale. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Lorsque la Cour constate qu'une erreur judiciaire grave et manifeste a été commise, les juges peuvent, à leur discrétion, accorder une indemnité à un accusé acquitté après sa détention, explique le communiqué des avocats de Charles Blé Goudé. Ils affirment que les nombreux manquements du bureau du procureur de la CPI ont porté atteinte aux droits fondamentaux de M. Blé Goudé. Le texte assure que si la Cour accède à cette demande, Blé Goudé va utiliser une partie de cet argent pour aider les victimes de la crise post-électorale de son pays. Depuis son acquittement le 31 mars, en même temps que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé n'est pas rentré en Côte d'Ivoire faute de passeport. M. Blé Goudé est contraint de vivre en dehors de son pays comme un apatride, dénonce ses avocats. Arrêté en 2013 au Ghana, il a été transféré à la CPI en 2014. Il était poursuivi pour crimes contre l'humanité, mais sera finalement acquitté après plusieurs années de détention à La Haye.
Au Cameroun, un tribunal militaire a condamné à mort cette semaine 4 militants séparatistes présumés pour le meurtre de 7 écoliers il y a moins d'un an. Le jugement a eu lieu mardi, mais on l'a appris aujourd'hui. Selon le tribunal, ils doivent être fusillés sur la place publique. Le 24 octobre 2020, une dizaine d'hommes armés à moto avaient pris d'assaut une école bilingue de Kumba dans la région du Sud-Ouest et ouvert le feu sur des élèves, tuant 7 enfants âgés de 9 à 12 ans. Une douzaine d'autres avaient été blessés par balles ou à coups de machette. Au Togo, le gouvernement a décidé de fermer les églises, mosquées et temples vaudous pour un mois à compter de ce vendredi. L'objectif est de faire face à l'inquiétante flambée de la pandémie de COVID-19 dans le pays. Le point avec Mamadou Mfa.
Dans un communiqué diffusé jeudi soir, les autorités togolaises ont pris une série de mesures comme l'interdiction de célébration de mariages civils, religieux et traditionnels et de toutes les manifestations culturelles, sportives et politiques pour un mois. Les funérailles sont également interdites et les grands bars, discothèques et boîtes de nuit doivent fermer leurs portes. Tout contrevenant à ces mesures s'expose à des sanctions conformément aux lois et règlements en vigueur, précise le communiqué. Le gouvernement togolais dit prendre ces mesures face à l'inquiétante flambée de la pandémie de COVID-19. Le nombre de décès ne fait qu'augmenter. En juin, nous avons eu 4 décès, en juillet 22 décès et en août 33 décès. Il y a une multiplication par 4 du nombre de malades, avait souligné mercredi Didier Koumavi Ekwevi, président du conseil scientifique, après une rencontre avec le premier ministre. Selon ce dernier, les centres de prise en charge des malades sont totalement saturés. Le Togo compte plus de 23 000 cas positifs, dont 203 décès, selon les chiffres officiels publiés jeudi soir. Le pays a lancé sa campagne de vaccination le 10 mars dernier et multiplie ces dernières semaines les appels à se faire vacciner.
Le docteur congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, appelle à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC, dont l'Est est en proie aux violences armées depuis plus de 25 ans. Malgré l'état de siège instauré dans les Kivu et en Ituri depuis le mois de mai, la situation sécuritaire ne semble pas s'améliorer dans ces provinces, écrit dans un communiqué Denis Mukwege, évoquant avec effroi les récentes tueries qui ont fait des dizaines de morts dans les territoires de Beni et Irumu.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Amérique commémore demain samedi le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Joe Biden, fragilisé par la fin chaotique de la guerre en Afghanistan, se rendra à Ground Zero pour une cérémonie sobre et solennelle. Le point avec Rosine Munezero.
Le président américain Joe Biden et son épouse Jill sont attendus samedi matin à New York au mémorial construit là où s'est levé les tours jumelles du World Trade Center, tombé le mardi
11 9 à 2011.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Amérique commémore demain samedi le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Joe Biden, fragilisé par la fin chaotique de la guerre en Afghanistan, se rendra à Ground Zero pour une cérémonie sobre et solennelle. Le point avec Rosine Munezero.
Le président américain Joe Biden et son épouse Jill sont attendus samedi matin à New York au mémorial construit là où s'est levé les tours jumelles du World Trade Center, tombé le mardi 11 septembre 2001. Comme chaque année, pendant 3 heures, seront lus les quelques 3000 noms de personnes tuées. Le couple présidentiel doit se rendre également en Pennsylvanie où s'est écrasé un avion détourné par 4 des 19 djihadistes et à Arlington, près de Washington, où le Pentagone a été attaqué. Le président Biden ne s'exprimera pas de toute la journée. Seul un message vidéo devrait être diffusé, a fait savoir la Maison-Blanche. Les États-Unis, qui ont perdu 2500 soldats et dépensé environ 2000 milliards de dollars en Afghanistan, ont laissé le pays aux talibans qu'ils avaient chassés de Kaboul il y a 20 ans, en les accusant d'abriter Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda qui a été tué en mai 2011 au Pakistan. 20 ans après, l'émotion des survivants, des familles de victimes et témoins de l'époque reste très vive. En 2 décennies, les jeunes Américains d'aujourd'hui n'auront qu'une conscience partielle de cette tragédie qui a changé le cours de l'histoire.
La Russie et le Bélarus ont lancé ce vendredi de grandes manœuvres militaires communes, inquiétant les pays voisins. Baptisé ZAPAD 2021, ces exercices doivent impliquer 200 000 militaires et se dérouleront sur 9 bases militaires russes, 5 bases belarusses et en mer Baltique. Ces manœuvres militaires ne sont dirigées contre personne, mais leur tenue est logique quand on voit d'autres alliances, l'OTAN en particulier, qui accroît activement sa présence militaire aux frontières de l'Union russo-belarusse, a dit le président Vladimir Poutine. Un nouveau vol vers le Qatar destiné à évacuer des étrangers et des Afghans voulant fuir le pays a quitté ce vendredi Kaboul. Un vol passager international avait déjà quitté Kaboul jeudi pour la première fois depuis la fin du retrait des forces américaines et de l'OTAN le 30 août à l'issue de 2 semaines très chaotiques à l'aéroport de la capitale afghane. En Afghanistan, toujours plus de 9 ménages sur 10 n'ont pas assez de nourriture. C'est ce qu'a indiqué l'ONU ce vendredi. Fin de ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Rosine Munezero.
Le prix de l'uranium a grimpé à plus de 40 dollars cette semaine, son plus haut niveau depuis 2014. Cette hausse est portée par un regain de la demande alors que l'offre reste limitée. Selon les analystes du marché, c'est la société Sprott Asset Management créée pour acheter de l'uranium à faible coût sur le marché et le conserver à long terme qui est à l'origine de ce nouveau bond. L'uranium se négociait en novembre 2016 à 18,1 dollars. Et son prix franchissait de nouveau le cap des 34 dollars en mai 2020. Le Sénégal vient d'achever les réformes nécessaires pour obtenir des États-Unis une subvention de 550 millions de dollars sur 5 ans pour le secteur de l'électricité. Les fonds proviendront de la Millennium Challenge Corporation, le principal fonds de développement du gouvernement américain. Le financement permettra de construire des lignes de transmission à haute tension et des sous-stations afin d'améliorer l'accès à l'électricité. Au Burkina Faso, le projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga se concrétise peu à peu. Évalué à près de 64 milliards de francs CFA, ce projet sera exécuté par Scania West Africa, une compagnie suédoise, et le français RATP Coopération. Le projet est prévu pour 24 mois. À terme, ce sont près de 300 bus qui seront déployés pour faciliter la mobilité urbaine.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Athlétisme pour commencer et nous parlons de la Ligue de Diamants qui a eu lieu hier à Zurich en Suisse. L'Afrique s'en tire avec 2 médailles au triple saut. Le Burkinabé Hugues Fabrice Zango, médaillé de bronze à Tokyo, a fini 2e et remporte la médaille d'argent. Il a réalisé un saut de 17,20 m derrière le Portugais Pedro Picardo, qui a réalisé un bond de 17,70 m pour arracher la médaille d'or, comme à Tokyo. L'Algérien Yasser Mohamed a terminé à la 3e place et décroche donc la médaille de bronze. Football, les matchs des tours préliminaires des Coupes africaines ont commencé ce vendredi. En Ligue des champions, Express de l'Ouganda a battu Almerek du Soudan 2-1. Même score en faveur de l'AS Kigali du Rwanda face à Misiri des Comores en Coupe CAF. 0-0 entre Bumamuru du Burundi et les Diables Noirs du Congo. En Turquie, la Fédération de football a annoncé le départ de son sélectionneur Senol Gunes 3 jours après la cuisante défaite 6-1 contre les Pays-Bas en match de qualification pour le Mondial 2022. Malgré une équipe constituée de jeunes talents et de vétérans, la Turquie a multiplié les défaites lors de l'Euro 2020 et des éliminatoires du Mondial 2022. Après un nul 2-2 contre le Monténégro et une victoire de 3-0 contre le modeste Gibraltar, elle a subi une humiliation mardi contre les Néerlandais. « Je suis le seul responsable ici », a déclaré M. Gounès après la rencontre. « L'échec est le mien. Aucun successeur n'a été pour l'instant annoncé. » Le footballeur français Benjamin Mendy, champion du monde en 2018, sera jugé à partir du 24 janvier 2022 pour plusieurs viols dont il est accusé. Cette date, susceptible encore d'être modifiée, notamment s'il plaide coupable d'ici là, a été fixée à l'issue d'une audience devant un tribunal de Chester, dans le nord de l'Angleterre, où l'international français de Manchester City ne s'est pas exprimé. Il restera en détention et une prochaine audience est prévue le 15 novembre. En Allemagne, le parquet de Munich, qui avait requis la prison avec sursis contre le footballeur Jérôme Boateng, envisage de faire appel. Le parquet examine s'il faut faire appel du jugement, a déclaré la procureure principale Anne Leding. au lendemain de la condamnation de Boateng pour avoir violenté en 2018 son ex-compagne et mère de ses deux enfants. L'ancien joueur du Bayern Munich, 33 ans, nie formellement les faits. Une peine de 18 mois de prison avec sursis, assortie d'une amende d'1,5 million d'euros, avait été requise contre le défenseur champion du monde en 2014, transféré durant l'intersaison à l'Olympique lyonnais. Le tribunal de Munich l'a finalement condamné à une amende de 1,8 million d'euros, sans peine de prison avec sursis.
Merci, Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. L'Union africaine a suspendu la Guinée de toutes ses activités et organes de décision suite au coup d'État du 5 septembre. Avant elle, la CEDEAO a condamné le putsch mené par le lieutenant-colonel Mamadou Doumbia contre le président Alpha Condé, exigeant sa libération. Joint à New York par Yacouba Ouédraogo, Abdoulaye Ami Souma, membre du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, estime que cette sanction de la CEDEAO n'est pas surprenante.
Ça, c'est des condamnations de façon classique, on les comprend. Mais sinon, en réalité, la CEDEAO n'a aucune crédibilité. Parce qu'en fait, s'ils étaient vraiment logiques avec eux-mêmes, le pays serait suspendu dans beaucoup d'instances parce que c'est un coup d'État qui vient annuler un autre coup d'État. Le coup d'État civil est beaucoup plus sévère parce que c'est le coup d'État constitutionnel. Les gens prennent, si tu veux, le stylo. Calmement, ils changent la vie de toute une nation. Et la CEDEAO, dans leur charte, s'est condamnée. Je ne sais pas si c'est l'article 23. Et un pays n'est pas autorisé à faire ça 6 mois avant la fin du mandat d'un président en exercice. S'ils n'ont pas fait ça et puis ils arrivent à faire ce qu'ils font actuellement, ben moi je pense que c'est seulement une question de principe. Mais en réalité, quand vous regardez un peu ce qu'ils ont dit, voilà, c'est très faible, il n'y a pas de mots très durs. Que seulement le pays ne va pas participer à certaines instances de la CEDEAO. Mais voilà, il n'y a aucune sanction économique. Donc, seulement une formule complètement diplomatique.
Comment jugez-vous déjà les premiers actes posés par la junte militaire au pouvoir?
Ben, je pense que c'est très encourageant. Le fait qu'ils ont préservé l'intégrité physique du président, ça c'est une bonne chose. Ils savent déjà que le tissu social est complètement ébranlé, donc ils cherchent à recoller les morceaux, c'est une bonne chose. Ils appellent à l'apaisement. Et voilà, même les anciens ministres, chacun a été traité avec beaucoup de dignité. Donc si vous voulez, c'est des signaux qui montrent que c'est une équipe sur laquelle on peut compter.
Est-ce que vous fondez beaucoup d'espoir dans cette junte militaire au pouvoir?
Absolument. C'est l'heure à la prudence, mais les premiers signaux nous montrent déjà qu'on peut avoir confiance en eux parce que le monsieur parle peu, mais avec beaucoup d'action. Et déjà, lui-même, il reconnaît qu'il y a eu des erreurs par le passé. Il va être à l'écoute, faire de sorte qu'on arrive à éviter ces erreurs.
Et moi, quel genre d'erreurs?
Il y a deux facteurs à qui moi je dois les conseiller. Vous voyez aujourd'hui, Alpha Condé est isolé, mais quand vous imaginez quand il était au pouvoir, avec les milliers de mouvements de soutien qui sortaient un peu partout. Il y a aussi les politiques qui ont un peu fait échouer le capitaine Dalis, par exemple. Parce que les gens étaient trop pressés pour aller aux élections, chacun veut être président. Et finalement, ils se sont dit, écoutez, celui qui va devenir président, c'est celui-ci qui va se charger de la mise en place des institutions fortes. Malheureusement, ça, c'est un faux pas. Moi, je veux que ce monsieur prenne le temps qu'il faut. Eh bien, il ne faut pas que ça soit un peu trop, mais si j'avais à proposer 2 ans et demi, c'est vraiment raisonnable. Mettre des institutions fortes en place, faire de sorte que, vraiment, nous ayons des institutions qui nous permettront de faire l'alternance de nos religions.
Justement, qu'est-ce que vous attendez concrètement de la junte au pouvoir?
Alors, quand je regarde leur nom, le Comité national du Rassemblement du Développement, je pense qu'il y a un petit problème là. Leur rôle n'est pas de développer le pays. La transition, ce n'est pas leur rôle de développer un pays. Leur rôle, leur mission ici, c'est mettre en place des bases essentielles pour le fonctionnement du pays. Celui qui viendra, il aura la chance d'avoir des instruments à main qui lui permettra de faire décoller le pays vers le développement. Merci. Donc leur mission, ce n'est pas se laisser intimider, il faut travailler avec toutes les autres sensibilités.
C'était Abdoulaye Ami Souma, membre du Front National pour la Défense de la Constitution, joint à New York. Au Tchad, le coût de la vie est de plus en plus cher. Les prix des denrées de première nécessité passent du simple au double, rendant le panier de la ménagère presque vide. Les mesures prises par les autorités de transition pour juguler cette flambée des prix sont bien loin de la réalité. André Kolmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Pour les journalistes, même vous connaissez qu'on mange des pourritures parce que vous-même, vous mangez ça chaque jour à la maison. Ah, tu ris, mais c'est ça même la réalité.
C'est le ras-le-bol d'une ménagère rencontrée dans les couloirs d'un marché de N'Djamena. Comme elle, beaucoup d'autres Tchadiens sont dans la même situation. C'est la désolation et le désespoir pour beaucoup de familles démunies.
Donne 2000 francs pour venir au marché. Le litre d'huile même, c'est à 1250. Et tu achètes le riz à combien? Tu achètes la farine à combien? Et quand vous venez, vous nous interrogez, il n'y a même pas une solution pour nous, la population. Laissez-nous souffrir ainsi. Point barre.
Même si tu as un billet de 10 000 francs CFA en main, tu ne peux pas manger à ta faim. Un coro de 1000 est à 1000 francs. Un litre et demi d'huile coûte 2250 francs. Un carton de macaroni passe de 6000 à 7500 francs. La viande, n'en parlons pas. Que les décideurs pensent un peu au bas peuple.
Les salariés se plaignent aussi de cette flambée de prix des produits alimentaires qui ne permet pas à beaucoup de Tchadiens de manger à leur faim.
Le salaire que nous avons, on ne peut même pas manger du 1er au 30, au plus 10 jours. Par exemple, le riz qu'on prenez à 15 000, à 20 000. Aujourd'hui, on nous parle de 40, 50 000, vous voyez. Le sac de maïs qui venait de par là, on prenait à 20 000, 18 000. Aujourd'hui, le sac de maïs grimpe jusqu'à 35, 40 000. Pour celui qui n'a rien, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des gens qui ne mangent pas pratiquement ici à N'Djamena.
L'économie du Tchad repose beaucoup plus sur l'exportation du pétrole. Alors, depuis que nous avons remarqué la baisse des prix, tout s'est chamboulé. Si seulement on investait beaucoup plus dans l'agriculture et tout, on n'allait pas rencontrer ces problèmes.
Le premier ministre de la transition, Paimi Padake Albert, est conscient de la grave situation que traverse la population, mais estime qu'elle est passagère.
La question de la cherté de vie est une question réelle dans notre pays, notamment à la sortie de ce que nous appelons trivialement ici le Chartamani. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. D'ici le mois d'octobre, il est évident que les produits que nous appelons de saison vont connaître une baisse de prix sur l'ensemble des marchés. Cela ne dépend même pas d'une action particulière de qui que ce soit.
Pour ce qui est des produits importés, le premier ministre de transition rassure que toutes les dispositions sont prises pour soulager la population.
Le gouvernement, en regardant dans les réserves stratégiques de l'ONASA, a mis sur le marché une certaine quantité d'huile disponible. Si vous ne remarquez pas aujourd'hui encore l'impact sur la consommation familiale, c'est certainement le fait de la chaîne de distribution qui est peut-être lente, mais nous pensons que cette huile mise sur le marché permettra de faire baisser relativement les prix.
C'est dans ces conditions de ni paix ni guerre marquées par une flambée de prix des denrées de première nécessité que les autorités de la transition s'activent pour organiser un dialogue national inclusif. André Koduma Djingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Alors que les États-Unis continuent de faire face à la propagation du variant Delta, le président Joe Biden a annoncé de nouvelles mesures visant à freiner ou ralentir la transmission. Ces mesures, qui incluent la vaccination obligatoire pour certains travailleurs comme les employés fédéraux, entrent dans le cadre d'une campagne à plusieurs volets pour mettre fin à la pandémie. Un reportage de Patsy Wida Kuswara avec le récit de Nathalie Barche.
Le variant Delta continue de tuer des milliers d'Américains chaque semaine et les hôpitaux sont surchargés. Dans le cadre d'un effort pour mettre fin à la pandémie, le président Joe Biden a annoncé de nouvelles mesures pour rendre la vaccination obligatoire pour les employés des grandes entreprises, les travailleurs fédéraux et le personnel de santé.
Le ministère du Travail élabore une règle d'urgence pour exiger tous les employeurs comptant 100 employés ou plus qui emploient dans l'ensemble plus de 80 millions de travailleurs de s'assurer que leurs effectifs sont entièrement vaccinés ou présentent un test négatif au moins une fois par semaine.
Dans ce nouvel effort de Joe Biden pour faire vacciner les Américains, les amendes pour les employeurs qui ne respectent pas la règle peuvent aller jusqu'à 14 000 $. Les épidémiologistes soutiennent la mesure, comme le docteur William Schaffner, expert en maladies infectieuses à la faculté de médecine de l'université Vanderbilt.
Nous avons été en guerre contre ce coronavirus et jusqu'à présent, nous avons eu une armée de volontaires, c'est-à-dire des personnes qui se portent volontaires pour se faire vacciner. Mais avec l'arrivée du Delta, l'ennemi a été renforcé. Alors maintenant, nous devons établir un projet de loi. Nous devons faire vacciner tout le monde.
Le plan de Joe Biden pourrait concerner au moins 100 millions d'Américains, selon la Maison-Blanche. Certains disent que l'obligation vaccinale est source de division. Peter Vincenzi, directeur de communication du groupe de pression conservateur Freedom Works.
Biden a clairement montré aujourd'hui aux travailleurs et aux chefs d'entreprise américains qu'il était leur pire ennemi.
Le plan de Joe Biden comprend le maintien des écoles ouvertes, l'augmentation des tests, l'exigence du masque, l'amélioration des soins aux patients et la fourniture de rappels, selon les directives des centres de contrôle et de prévention des maladies.
Nous avons acheté suffisamment de boosters, de doses de rappel et le système de distribution est prêt à être administré. Dès qu'ils seront autorisés, les personnes éligibles pourront aussitôt obtenir un rappel.
L'Organisation mondiale de la santé a exhorté les pays riches à suspendre les rappels jusqu'à la fin de l'année. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle ne pouvait pas fournir des rappels aux Américains tout en aidant à faire vacciner le monde en même temps. Jenny Ottenhoff, directrice des politiques pour la santé mondiale à One Campaign, estime qu'il faut d'abord vacciner plus de personnes dans le monde avant de faire des rappels.
La question n'est pas de savoir si les États-Unis peuvent faire les deux. C'est vraiment les États-Unis qui devraient faire les deux. Car il y a un compromis. Pour chaque personne qui reçoit un vaccin ou une dose de rappel aux États-Unis, une personne ne recevra pas sa première ou seconde dose ailleurs.
Le président Joe Biden a souligné que les États-Unis avaient fait don de 140 millions de doses à plus de 90 pays. Le mois prochain, il annoncera d'autres plans d'aide pour vacciner plus de personnes au niveau mondial.
Les États-Unis commémorent demain samedi le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre visant les tours jumelles de New York et le Pentagone. Deux décennies plus tard, les événements sont encore frais dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu. Idrissa Seydoudia présentait le journal à la VOA ce jour-là. Il nous fait part de son témoignage au micro de John Lyndon.
J'étais au bureau vers 8h comme ça, 8h45. À côté de moi, il y avait Jean-Claude André, le regretté Jean-Claude André. Tout d'un coup, bon, on voit un avion qui percute une des tours, n'est-ce pas, de World Trade Center. Et naturellement, j'ai pensé à un accident. Quelques temps après, on voit un autre avion percuter l'autre tour. Alors, Jean-Claude André me dit, mais regarde, qu'est-ce qui se passe comme ça? Je dis, mais non, Jean-Claude, ils sont en train de repasser ça en boucle, c'est le même truc. Il me dit, mais non, c'était un autre avion. Et c'est en ce moment-là qu'on a réalisé que ce n'était pas du tout un accident, mais que c'était un acte terroriste. Et on ne pouvait pas s'imaginer qu'on pouvait utiliser un avion comme on utilise un missile pour perpétrer ce genre d'acte.
Comment le président et son administration, notamment le vice-président Dick Cheney, réagissent face à ces événements?
Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il était là, tranquillement, en train de lire des comptes. Il était avec des élèves, je crois, d'une école élémentaire en Floride. Alors, à un moment donné, on a vu un de ses proches collaborateurs s'approcher. Il lui a susurré quelque chose à l'oreille. On l'a vu littéralement livide, mais il a gardé son calme. Alors, ce qui s'est passé par la suite, c'est que, bon, il y avait une grande inconnue. On ne savait pas ce qui se passait exactement et quelles étaient les cibles, n'est-ce pas, de ces terroristes. Alors apparemment, ce qui s'est passé avec le président, les services secrets ont décidé de ne pas le ramener directement à la Maison-Blanche. Ils ont estimé que peut-être la Maison-Blanche était aussi une cible. Alors ils l'ont littéralement trimballé, je dirais, à travers le pays avant de le ramener plus tard à la Maison-Blanche. Entre-temps, le vice-président a été averti, on l'a sorti de là où il était pour l'amener dans un bunker, dans le sous-sol de la Maison-Blanche. Et là, quelque chose de terrible qu'on a appris par la suite, On lui a dit qu'un avion se dirigeait vers Washington. C'est celui qui s'est écrasé sur Shanksville. On lui a dit que cet avion se dirigeait vers Washington. Parce que ce qu'il faut se rappeler ici, c'est que les terroristes ont visé les symboles de la puissance américaine. Wall Street, c'est l'économie et les finances. Comment dirais-je, le Pentagone, c'est la puissance militaire. Alors donc, dans l'esprit des gens, c'était Washington qui allait être la prochaine cible. Alors, les services secrets ont dit au vice-président Dick Cheney qu'un avion se dirigeait vers Washington, c'est celui de Shanksville. Alors, que faut-il faire? Apparemment, on lui a demandé s'il fallait abattre cet avion avec les passagers à bord au-dessus de Shanksville avant que ça n'atteigne Washington, pour vous dire.
C'était Idrissa Seydouya, journaliste à La Voix de l'Amérique, et vous pourrez écouter l'intégrale de ce témoignage dans notre programme « L'Amérique et vous » avec John Lindon, c'est à 19h05, temps universel. Fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. Toute l'équipe de la VOA vous remercie de votre fidélité et vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de nos programmes. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site VOA.